Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 13h. Ce journal vous est présenté par Yoline Olivier.
Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité. C'est une semaine littéraire qui s'annonce. Aujourd'hui, ce sont les résultats du prix Goncourt qui sont tombés. Victoire de Laurent Mauvigné. Les élections du maire de New York ont lieu ce soir aux États-Unis. Sacha Baquez nous parlera de Zoran Mandani, le candidat en tête des sondages. Enfin, le mois de novembre signe le Movember, un mouvement de sensibilisation à la santé masculine. Les résultats du Goncourt 2025 sont tombés ce midi. La liégeoise Caroline Lamarche faisait partie du carré final avec son roman Le Bel Obscur, mais c'est finalement Laurent Mauvigné qui remporte ce célèbre prix avec son roman La Maison Vide. Bonjour Simon Loire, c'est également une semaine chargée en littérature.
En effet, c'est même la semaine des prix littéraires. Hier, le prix Femina a été décerné à Natacha Apana pour La Nuit au Cœur. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le Goncourt, mais aussi le Renaudot, et demain le prix Médicina.
Le prix Goncourt qui est le plus ancien et prestigieux prix littéraire français.
Oui, le premier de la série a été remis en 1903. Le règlement est simple, le livre doit être écrit en français, publié par un éditeur francophone et figuré dans les rayons des librairies dès la première semaine de septembre. Si le lauréat ne remporte qu'un chèque symbolique de 10 euros, c'est plutôt le prestige du bandeau rouge apposé sur son livre qui fera bondir les ventes. En moyenne, un prix Goncourt s'écoule à 400 000 exemplaires, mais ce n'est qu'une moyenne. On a déjà vu certains romans dépasser le million de copies vendues.
Une promesse de vente donc. Un petit mot sur les coulisses et les moments forts.
L'Académie Goncourt comporte 10 jurés qui délibèrent au restaurant Drouan à Paris, dans le quartier de l'Opéra. On retrouve parmi eux des romanciers comme Philippe Claudel, qui préside le jury cette année, et Éric-Emmanuel Schmitt. Dans les faits marquants, citons Romain Gary récompensé à 2 reprises, chose qui a été rendue possible grâce à l'usage d'un pseudonyme, et Elsa Triolet, la première femme à remporter le Goncourt en 1945. Il aura fallu attendre 42 ans. Une dernière statistique, en 120 ans d'existence, le Goncourt n'a récompensé que 13 femmes.
Merci Simon Loire pour ces précisions. Le résultat du prix Médicis sera donné demain pour clôturer cette semaine de récompenses littéraires. Dans la suite de l'actualité ce matin, le journal L'Écho a sorti une enquête sur la faible protection des données de certains employés de structures sensibles. Les journalistes se sont fait passer pour une entreprise spécialisée dans le marketing et ont ainsi réussi à obtenir des informations auprès des fournisseurs de données américains. Grâce à elles, ils sont parvenus à mettre des noms et des prénoms sur au moins 5 personnes travaillant ou ayant travaillé pour l'Union européenne et à observer leurs habitudes de vie. Amélie Huppert a interviewé un hacker éthique certifié pour comprendre comment éviter que nos données ne fuitent.
Le citoyen lambda peut intervenir sur ses propres données, mais il ne faut pas non plus être dans l'extrême en disant « je veux qu'aucune donnée transite ». Ça, c'est totalement utopiste. Le seul aspect où on peut intervenir, c'est de limiter et de prendre connaissance de quelles données est utilisée pour telle application.
Et que peuvent faire les personnes ayant l'habitude de traîner des données sensibles ?
Utiliser du matériel spécifiquement à leurs besoins, tels que par exemple des téléphones sécurisés et des moyens de communication sécurisés et contrôlés par des professionnels du milieu.
Le Soir a révélé ce matin que Stéphane Moreau négocie une transaction pénale avec le parquet de Liège depuis quelques semaines. Si elle s'avère concluante, l'ex-CEO de Netis évitera un procès quant aux rémunérations illégales, selon un parquet, que le Liégeois aurait perçu entre 2018 et 2019. En politique, la ministre de l'Éducation Valérie Glatini a affirmé ce matin le maintien des distributions gratuites des fournitures scolaires de la maternelle jusqu'à la 6e primaire, malgré une réduction de moitié du financement. Ce dispositif passera donc de 24,2 millions d'euros annuels à 11 millions d'euros. Les écoles devront donc fournir le matériel scolaire nécessaire à plus d'élèves, mais avec une réduction du budget de moitié. À New York, les électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau maire. C'est un outsider qui pourrait bien créer la surprise, Sacha Baquez.
Oui, alors cet outsider, c'est Zoran Mandani, âgé de 34 ans. Cet élu du Queens a remporté en juin la primaire démocrate face à l'ancien gouverneur Andrew Cuomo. Né en Ouganda, dans une famille d'origine indienne, il a grandi à New York et a été naturalisé américain en 2018. Il est également musulman pratiquant, ce qui ferait de lui, en cas de victoire, le premier maire de cette confession.
C'est donc démocrate, mais que propose-t-il plus précisément ?
Il est en fait à l'aile gauche du Parti démocrate. Il est d'ailleurs proche de Bernie Sanders et d'Alexandria Ocasio-Cortez, deux figures de l'aile gauche des démocrates. À New York, Mamdani défend un programme centré sur la classe ouvrière. Encadrement des loyers, gratuité des transports et des crèches, création d'épiceries publiques dans les quartiers populaires. Il propose de financer ces mesures par une taxation accrue des grandes entreprises et des hauts revenus, ce qui est audacieux dans la capitale mondiale de la finance.
En tout cas, sa figure s'est rapidement imposée dans l'espace public.
Oui, sa campagne, portée par une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, a séduit de nombreux jeunes électeurs. C'est notamment grâce à des positions peu courantes au sein du Parti démocrate. Il s'affiche pro-palestinien et critique régulièrement le gouvernement israélien. Des prises de position qui provoquent des tensions jusque dans son propre parti, mais évidemment aussi du côté républicain. Le président Donald Trump, farouchement opposé à sa candidature, l'a qualifié de petit communiste et a menacé de réduire les financements fédéraux à la ville s'il est élu, appelant à voter pour Andrew Cuomo, jugé plus acceptable. Zoran Mamdani bénéficie toutefois de soutien de plusieurs figures démocrates, et pas des moindres, puisque Barack Obama lui a passé un coup de fil pour le soutenir.
Merci Sacha Baquès. Toujours à l'international, l'Union européenne accorde 21,5 millions d'euros d'aide humanitaire au Venezuela, à Haïti et aux Caraïbes. Cela fait suite aux crises qui touchent le Venezuela et Haïti, ainsi que les pays qui ont fait face à l'ouragan Melissa mardi dernier. 14,5 millions d'euros sont octroyés au Venezuela, qui fait face à des conséquences de la crise économique du pays. 5 millions seront envoyés aux pays des Caraïbes touchés par l'ouragan Melissa. Et enfin, les 2 millions restants seront donnés à Haïti, où la violence des gangs règne encore. En littérature, ce mois de novembre est marqué par la campagne « Lisez-vous le Belge ». L'objectif, mettre un coup de projecteur sur les œuvres des auteurs et autrices belges. Simon Loire s'est rendu chez Livre au Trésor, une librairie liégeoise qui participe à cette opération.
Olivier Verskuren est le gérant de Livre au Trésor. Pour ce libraire liégeois, le sens de la campagne « Lisez-vous le Belge » est primordial. La littérature belge en souffre.
La production belge peut parfois pâtir de la concurrence, évidemment, mais aussi peut-être l'omniprésence de la littérature française. Les Belges passent parfois un peu inaperçus, au point d'être parfois pris pour des Français alors qu'ils sont Belges.
Pour autant, le libraire ne remarque pas de différence nette dans l'intérêt des lecteurs pour le livre belge pendant cette période.
C'est comme la foire du livre. Elle fait venir beaucoup de gens, voilà, on en parle beaucoup. Je pense que c'est un focus à un moment donné de l'année qui est utile pour rappeler que ça existe et peut-être pour mettre en avant des choses. Mais je pense que les résultats de cette opération, ils se font plutôt sentir sur le long terme. C'est pas que brusquement tout le monde va se dire ouais, c'est vrai qu'il faut que j'achète du belge quoi. C'est plutôt voilà, rappeler régulièrement que ça existe, qu'il y a plein de choses qui valent le coup et que bah ça vaut le coup peut-être de sortir un petit peu voilà des sentiers battus de la littérature française dont tous les journaux français, la télévision française parlent.
Vous avez donc jusqu'au 30 novembre pour assister aux divers événements organisés dans le cadre de la campagne, mais n'oubliez pas, rien ne vous empêche de lire du belge toute l'année.
Côté musique, les Francofolies de Spa sont de retour pour une année supplémentaire. Dans un souci de se réinventer et de répondre aux attentes des artistes et des festivaliers, le festival durera 7 jours au lieu de 4, du 20 au 26 juillet 2026. Des concerts auront lieu en intérieur, dans la grande salle des fêtes du Casino de Spa, mais aussi en plein air, sur le village Francofou et la place Royale. Des concerts gratuits se dérouleront toujours dans le centre-ville de Spa. Qui dit mois de novembre dit Movember. Cette campagne de sensibilisation a débuté il y a quelques jours. Amélie Huppert a rencontré un participant pour comprendre le mouvement.
Cette année, Johan Escarmel arborera fièrement sa 13e moustache. Touché par un cancer testiculaire il y a 14 ans, il explique en quoi consiste le Movember.
L'idée est de changer le visage de la santé masculine en changeant son visage. Donc le 1er novembre, tout le monde rase toute moustache ou autre barbe et au fur et à mesure du mois de novembre, on ne laisse pousser que la moustache.
Le but, sensibiliser au cancer, mais aussi à la santé mentale des hommes. C'est un peu l'équivalent d'Octobre Rose, mais avec une différence.
Les hommes ont tendance à avoir une pudeur plus marquée, à moins parler de leurs problèmes, dès que ça touche à la virilité. On dit que les dames en parlent plus facilement entre elles, de tout ce qui les touche, leur intimité.
C'est justement parce que les hommes en parlent moins que le Movember est primordial. C'est aussi la raison pour laquelle il est moins connu qu'Octobre Rose. Même si le volet principal est la sensibilisation, le deuxième a aussi son importance.
On récolte des fonds qui sont directement dirigés vers la recherche pour les cancers masculins. Et on a l'assurance que les dons récoltés pour Movember vont à la recherche en Belgique pour ces cancers masculins.
Johan insiste sur le fait que porter la moustache, c'est soutenir les malades, mais aussi leur donner de l'espoir.
L'ULIÈGE renouvelle son partenariat avec la Croix-Rouge. Un mail collectif a été envoyé aux étudiants pour les avertir des lieux de collecte. L'université a aménagé plusieurs sites pour l'occasion. Axel Hoffelink est parti au Sertilement pour voir si cette alliance porte ses fruits.
Dans la salle de classe, les lits ont remplacé les bureaux. La radio allumée couvre le pipip des machines. Il reste une vingtaine de donneurs dans la salle alors que la collecte du Sertilement touche à sa fin. Pourtant, les étudiants continuent d'arriver. Ils devront malheureusement repasser, mais cela prouve le succès de la journée. C'est grâce au mail de l'UNIF qu'une master en droit et un doctorant sont venus.
J'ai vu l'info passer dans ma boîte mail de l'UNIF et j'ai vu qu'il y avait des pénuries de sang et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Les personnes sont super encadrantes, sont super rassurantes et je pense vraiment que je le referai, ouais.
On a vu le mail et on est venu. On l'avait noté longtemps à l'avance. Ça s'est bien passé et y a pas de souci, je le referai.
Autre raison, la proximité. Kenza, étudiante en sciences politiques, a saisi l'opportunité.
Ça fait quelques temps que j'y pensais parce qu'à chaque fois je vois passer des stories, des posts, toujours sur les réseaux. Là, je me suis dit, c'est l'opportunité, il y a don de sang à l'UNIF. J'étais extrêmement bien reçue, franchement, je ne m'attendais pas à ça.
Deux bac 3 arrivent trop tard, mais compte revenir à la prochaine collecte.
Moi, j'ai vu une story d'une amie qui venait de donner, je savais qu'il y avait. Je savais pas exactement les dates, mais j'ai vu qu'elle avait donné tout à l'heure et donc on est vite venu ici quand j'ai fait la remarque. Oui. Pas de chance pour les cancres, on doit revenir.
Manon Rémy, médecin à la Croix-Rouge, est satisfaite de cette collaboration.
Généralement, c'est des candidats qui sont en bonne santé, très peu de comorbidité, et il y en a qui après switchent vers le don de plasma et plaquettes, donc c'est super intéressant. Ouais.
Les dons de sang se prolongeront jusqu'à fin novembre. Et tout de suite, les résultats sportifs avec Sacha Baquès.
Début difficile pour les Diablotins. Les Belges se sont inclinés 3-2 face à l'Argentine hier pour leur entrée en lice dans le groupe D du mondial U17 au Qatar. Les hommes de Bob Broways devront désormais réagir face aux Fidji et à la Tunisie pour espérer accéder aux huitièmes de finale. Toujours en football, journée de Ligue des Champions ce soir. L'Union Saint-Gilloise se déplace à Madrid pour y affronter l'Atlético. Les joueurs de David Hubert espèrent se relever après deux revers 0-4 face à Newcastle et l'Inter de Milan. Dans les autres rencontres de la soirée, Liverpool affronte le Real de Madrid à Anfield, tandis que le PSG reçoit là le Bayern Munich. Marc Wilmots, président du Standard de Liège, est entendu aujourd'hui par le conseil disciplinaire de l'Union belge de football. En cause, ses propos critiques envers l'arbitrage à l'issue du match contre l'Antwerp le 17 octobre dernier.
Et en tennis,
Alexander Blok sera le cinquième joueur de la sélection belge dans la Final 8 de la Coupe Davis qui aura lieu du 18 au 23 novembre à Bologne en Italie. Il a été sélectionné par le capitaine Steve Darcy à la suite de sa victoire au tournoi de Bratislava.
Merci Sacha Baquès. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur 48FM.